Pour cet arrêt aux pages, nous recevons aujourd'hui une auteure, docteur en théologie, qui appréhende les textes bibliques, notamment le Nouveau Testament et plus particulièrement aujourd'hui l'Évangile de Matthieu dans sa matière littéraire. J'ai le plaisir de recevoir Céline Romer pour son livre paru aux éditions Olivier Temps, Qu'en parlent les images, les paraboles dans l'Évangile de Matthieu. Bonjour Céline Romer.
Bonjour.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense aussi pour nos auditrices et auditeurs, je vous demanderai Céline d'abord d'identifier l'Évangile de Matthieu dans ce Nouveau Testament.
Ah, oui, je suis pas cette entreprise, j'imagine.
Non, mais c'est une excellente question et c'est bien normal de commencer par là. Il faut rendre tous les honneurs au premier auteur qui est Matthieu, ou en tout cas celui ou ceux qui se cachent derrière ce prénom Matthieu. Mais Matthieu, c'est d'abord le premier évangile sur lequel on tombe quand on ouvre le Nouveau Testament. Donc on est obligé un peu d'en passer par lui si on veut faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça, c'est la première chose. On l'a mis en première place, sans doute parce que Matthieu lui-même relit tout l'Ancien Testament, en fait, pour nous raconter un petit peu ce qu'il comprend de cet homme qu'il appelle Jésus le Christ, ce qu'il comprend de lui, ce qu'il comprend de ce qu'il a dit, fait, et puis ce qu'il comprend surtout de sa mort et de sa résurrection. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut présenter Matthieu, je crois, comme un pont, un relais, un homme qui relie et qui relie pour nous.
Votre approche à vous, Céline Romer, de l'Évangile de Matthieu est littéraire, linguistique, et vous vous intéressez en particulier à une forme d'écriture, à une forme d'énonciation qu'est la parabole. Et vous dites dans la première phrase de votre premier chapitre, « Les paraboles vivent moins d'être comprises que d'être entendues ». Alors, qu'est-ce que vous insinuez par là?
Je veux insinuer que, enfin, j'espère le dire en fait, tout au long de ce livre, c'est que si on cherche à comprendre une parabole, on va être assez rapidement déçu. Parce que c'est ça qui est fascinant dans le langage parabolique. C'est plus un langage, vous savez, on parle en parabole comme on parle en anglais, comme on parle une langue un peu exotique, étrangère, qui sonne joliment aux oreilles.
Il y a son vocabulaire, il y a ses codes.
Oui, il a ses images, il a ses représentations, il fait voyager, mais en fait, c'est étonnant, il nous emmène très loin et pourtant, il parle de choses très très simples, du quotidien, d'images très proches de nous, il parle de gens comme nous, il parle de l'ordinaire et pourtant, ça désigne quelque chose qui est extraordinaire. Ça, c'est fascinant comme mécanique de langage, si vous voulez. C'est vraiment du langage poétique, en fait, c'est un langage qui agit.
Voilà. C'était, en effet, je voulais rebondir sur encore une phrase de votre livre. Les paraboles racontent une réalité, mais ne la décrivent pas. Elles l'accomplissent.
Oui, c'est toute la position des disciples, vous savez, qui sont devant Jésus. Jésus se met à parler en parabole et puis les disciples disent c'est bien gentil tout ça, mais explique-nous, enfin, dis-nous un peu clairement les choses, parce que toutes ces histoires-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et puis Jésus, en fait, non pas qu'il se moque, mais en expliquant, en fait, il explique rien du tout. Il continue à raconter des images parce que c'est ça, la parabole, il faut se lancer. Il faut rentrer dans ce monde-là. Mmh. Et puis, c'est elle qui œuvre en nous. C'est-à-dire que vraiment, la parabole, elle vise au cœur. Elle dit des choses intimes, vraies, personnelles. Et elle œuvre en nous. Elle délivre la parole en nous, au plus près de nous. Et c'est après la parole qui agit en nous.
C'est ça, vous nous dites que s'adresse à l'ensemble de notre être. Les paraboles tissent un lien particulier, existentiel et réel entre l'auditeur et le locuteur, nous dites-vous. Et même entre le locuteur, entre Jésus et moi.
Ouais. Tout à fait. Ça, je le crois. En tout cas, déjà pour l'avoir expérimenté moi-même. Je crois qu'on peut aussi le dire tranquillement. Mais le langage parabolique, c'est pas un discours d'élite. Hein. C'est pas le propos des philosophes. C'est pas de la dogmatique. C'est pas un langage clair. On nous raconte des histoires, ou plutôt Jésus nous raconte des histoires, parce que c'est aussi un langage qui est indissociable de son locuteur. Hein. C'est jamais la parabole d'un autre. C'est toujours la parabole de Jésus. Donc, c'est comme ça que Jésus vient à nous de la part de Dieu. Et à travers cette parole, ce langage, eh bien, il nous dit quelque chose ou il nous fait expérimenter plus exactement sa prédication du royaume des cieux. Il le dit, quand il parle en parabole, il dit qu'il parle la parole du royaume. Alors tout d'un coup, quand on entend une parabole, bah, c'est un peu le royaume qui vient jusqu'à nous.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce type de langage?
Parce que comment dire autrement? Comment dire autrement ce qui est extérieur à nous, ce qui nous désire, ce qui nous appelle, ce qui veut s'immiscer dans notre vie, dans notre intimité, encore une fois, dans nos sentiments, pas que notre intellect, mais notre existence. Comment nous pénétrer dans toute notre épaisseur et toute notre obscurité autrement que par la parole agissante? C'est pas en faisant des tableaux ni des schémas, c'est pas en tenant des discours moralisateurs. C'est bien évidemment par le travail du mot, de la langue, celle qui peut nous toucher et qui peut se transformer en paroles et non plus en discours.
Et puis, vous le dites aussi que que les paraboles touchent le quotidien des gens.
Oui, c'est vrai, avec les paraboles, on ne rentre pas dans le merveilleux. C'est-à-dire que ce n'est pas des histoires, ce n'est pas « il était une fois une jolie princesse » ou « un joli prince », il n'y a pas de dragon, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de château. Vous voyez, c'est une femme qui met du levain dans sa farine, c'est des hommes qui vont à la pêche, c'est un homme qui jette des graines dans son champ. Donc, c'est vraiment notre quotidien. Elle parle de travail, elle parle des fêtes, elle parle des relations dans la famille, elle parle des relations entre amis, elle parle de jugement, elle parle de salaire, d'argent énormément. Enfin, vous voyez, c'est tout le domaine économique, c'est tout ce qui fait notre quotidien. Ça dit aussi quelque chose, je crois, de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment la présence de Dieu dans le réel de notre histoire. Quoi.
Pourtant, ce réel-là, contemporain de Jésus, n'est plus du tout le même que celui... que le nôtre aujourd'hui. Est-ce que ça ne pose pas un problème de compréhension, d'interprétation Est-ce qu'on est aussi concerné que les disciples auxquels s'adressait Jésus?
Bien, je le crois, parce que ces histoires toutes simples, elles n'utilisent peut-être pas les mêmes codes, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on sème... Enfin, en tout cas, moi, je ne sème pas dans les champs, ça c'est vrai, mais il y en a d'autres qui le font pour moi, Dieu merci. Effectivement, on n'est pas forcément pêcheurs, etc. C'est des images très agricoles aussi, c'est loin de l'urbain. On est devenus des urbains pour la plupart d'entre nous. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes codes, mais le ressort sur lequel elles reposent ou qu'elles activent, si vous voulez, ça... C'est exactement le même que moi, c'est-à-dire que on nous parle de trouver, on nous parle de quête, on nous parle de sentiments, on nous parle d'interrogation devant le mal. Pensez à ces serviteurs du maître qui s'étonnent que dans le champ du maître, il y ait aussi des ivrées. Pourquoi il y a des ivrées? Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être agriculteur pour comprendre cette question. Pourquoi ça ne se passe pas bien? Pourquoi le mal est là? Pourquoi ça pousse en même temps que les belles plantes et les beaux blés?
Voilà. C'est facile de transposer.
Oui, je crois que vraiment, on sent bien que dans les paraboles, on touche à l'essentiel, à l'amour, à la déception, à l'espérance, à la question du mal, à la reconnaissance aussi.
Je vous propose une pause musicale, Céline Römer, avec une musique réunionnaise, le Maloya, avec la voix de Zane-Marie Barré.
Il est d'orange et gramoun, à soi 6 heures. Il est d'orange et fait noir, gramoun, un bougui plaire. Passe son beau baisse. En trip gouni, passe dans ma marmite manger napi, passe pour femme là son cœur y brille, passe dans la case pren mama y cri, fait noir n'a rien, pour lui éclaire à li maman, fait noir n'a rien, pour lui éclaire maman,
fait noir n'a rien. Pour lui éclaire à lui, maman. Fais noir n'a rien. Pour lui éclaire, maman.
Fais noir n'a rien. Pour lui éclaire à lui, maman. Fais noir n'a rien. Pour lui éclaire, maman.
Fais noir n'a rien. Pour lui éclaire à lui, maman. Fais noir n'a rien. Pour lui éclaire, maman.
Il est d'orange et viennois, il asperge son l'air. Il est d'orange et mounois, il a donné à ses misères. Passe son lilette en l'air, sa sous poli. Passe l'y comprend, puis saison aster la neige ici. Passe pour deux mounes en bas dehors, toujours plus joli. Passe toutes bonnes enfants créoles pour gagner la pépi. Fais noir n'a rien, pour lui éclairer à lui, maman. Fais noir n'a rien, pour lui éclairer maman.
Fais noir n'a rien, pour lui éclairer à lui, maman. Fais noir n'a rien, pour lui éclairer maman.
Fais noir n'a rien, pour lui éclairer à lui, maman. Fais noir n'a rien, pour lui éclairer maman.
Fais noir n'a rien, pour lui éclairer à lui, maman. Fais noir n'a rien, pour lui éclairer maman.
chapeau mange, ma fat en bois. La paix, la tranquillité, diamant ou ça. Sommet l'oral, le trou dans mon tête. À moi la pougain, la maladie sec. Mon selfie, brave, brave à moi. Pour mes petits enfants là à côté moi. T'es maman taou, enfant maman taou. Mon pays point vert, l'île est demi rouge, demi vert. Viens m'attendre ou t'quer, rend mon des doigts mi, des doigts verts. Srin de la ligne claire, li fa en tout le temps. Si nous t'es à tigin, tigin pour couvert, va wa pauvrement. Nous te coulons. Mon pays point vert, il est demi rouge, demi rouge, demi vert. Viens m'attendre ou t'quer, rendre mon des doigts mien, des doigts mien, des doigts verts. Swing de la ligne claire, il faut en tout le temps. En tout le temps, si nous t'es à Tiguin, Tiguin pour couvert, va voir pour vraiment nous couler. Va, 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 va.
C'est avec la voix de Sainte-Marie Barré que nous nous retrouvons sur FM Plus 91 FM dans l'émission La Réopage en compagnie de Céline Romer, auteure, docteur en théologie qui publie un nouvel ouvrage, ou un premier ouvrage d'ailleurs. On n'a pas parlé de votre parcours éditorial, Céline Romer. Quand parlent les images, les paraboles dans l'évangile de Matthieu aux éditions Olivetan. Un premier livre qui a reçu un prix.
Oui, ça c'est une belle surprise. Vous voyez comme quoi les paraboles continuent à faire parler, à parler, etc. Oui, oui, ça marche bien. Oui, non, j'étais très heureuse de ce prix, un chouette prix Bible. Et j'étais heureuse parce que cet ouvrage, c'est un peu un défi en fait. Il m'a été demandé dans une belle collection qui s'appelle Au fil des Écritures, donc abritée chez Olivetan, vous l'avez dit. Mais il fait suite à un travail de recherche plus universitaire, de travail doctoral. Et au fond, je trouvais dommage de faire un grand discours universitaire sur des récits aussi simples que les paraboles. Alors, vous voyez, les paraboles, c'est des histoires toutes simples, et puis dès qu'on s'approche, ça se complique. Alors, on écrit dessus. Bon, alors qu'il fallait revenir et être plus raisonnable, il fallait revenir à un ouvrage un peu plus lisible. Voilà, oui. Donc c'était mon défi.
Alors, certes, c'est un ouvrage théologique, on l'a dit, qui s'appuie sur les textes bibliques, mais il y a aussi quand même une belle patte littéraire. Je trouve qu'on a quand même ce souci de l'écriture, de la recherche littéraire. Est-ce que c'est aussi vos origines ou vos penchants
Oui, c'est personnel. Ouais, non, c'est tout. Alors c'est mon origine. Moi, je suis venue à la théologie par la littérature, donc je pense que ceci explique un petit peu cela. Et puis c'est surtout le langage parabolique qui s'y prête, parce que la parabole, elle a une longue histoire. Jésus a pas inventé cette manière de parler. Il a hérité de cela. Donc il hérite de deux choses importantes. Il hérite de toute une tradition de la littérature grecque où on nous raconte des fables. Enfin, pensez à Ésope. Quand on lit Ésope, on n'est pas si loin des paraboles de Jésus. On a aussi cet art de raconter, un art tout à fait populaire, où il y a de l'humour aussi dans les paraboles de Jésus, comme chez Ésope. Au fond, on a cet humour, le goût de la chute, des petites histoires courtes, efficaces, des petits personnages, etc. Et puis, évidemment, Jésus hérite d'un langage poétique propre au judaïsme. les rabbins plus tard, après Jésus, mais on a pratiqué la parabole, on appelle ça le machal dans la littérature juive, et évidemment, il y a ce confluent là de deux littératures importantes, et Jésus est l'héritier. Je dirais parfait parce qu'au fond, ça a été un paraboliste hors pair. En christianisme, quand on dit parabole, on pense tout de suite à Jésus. Elles sont pas autonomes, ces paraboles. Elles sont liées à lui, à sa personne. Et lui-même, au fond, en est sans doute la clé d'explication.
On a parlé des paraboles dans l'évangile de Matthieu. Mm-hmm. Est-ce qu'on en retrouve d'autres dans les autres évangiles?
Oui, on a un beau trésor parabolique, ce qui d'ailleurs nous fait dire que sans doute Jésus a été un paraboliste hors pair, parce que pour que la tradition en ait retenu autant, on peut compter quasiment plus d'une quarantaine de paraboles différentes de Jésus. On en trouve dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Jean, étonnamment, ne connaît pas le mot parabole, ce qui ne veut pas dire qu'il ne manie pas le langage poétique. Jean va utiliser un autre terme, paroimia. En tout cas, il raconte aussi des histoires. Pour qui a lu une fois l'évangile de Jean, on se rend compte tout de suite qu'il aime les histoires, les symboles, etc. Mais c'est encore une autre écriture littéraire. Matthieu, Marc, Luc, en revanche, oui, on a des paraboles qui sont communes aux trois évangiles. Et puis, chacun en a gardé, préservé, écrites des paraboles qui leur sont propres. Je pense bien sûr, alors Luc est très fort pour ça, on a la parabole du bon samaritain, bien sûr, que tout le monde connaît, et dans l'évangile de Matthieu, on peut penser à la parabole, par exemple, des ouvriers de la 11e heure, vous savez, ces fameux ouvriers qui sont autant payés que ceux qui arrivent à la première, ce qui est quand même proprement scandaleux, il faut bien le dire. Voilà.
Alors, dans cette première partie d'émission, Céline Romer, nous avons évoqué ce qu'est une parabole, nous avons aussi identifié plus précisément ce qu'était l'évangile de Matthieu, et j'aimerais dans cette deuxième partie d'émission que nous revenions sur une expression que vous avez dans votre chapitre 3 notamment, en tout cas c'est la première fois qu'elle apparaît dans ce livre, la notion de pacte parabolique. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça signifie que ce pacte parabolique?
Mais je crois que, alors, parler d'un pacte, c'est dire au fond, il y a comme un contrat sous-entendu quand Jésus se met à parler en parabole. Et on le voit assez bien à partir dans le chapitre 13 de Matthieu, où c'est la première fois officiellement, parce qu'en fait, il a déjà glissé des paraboles, mais elles ne s'annoncent pas toujours, les paraboles. Vous savez, on a une petite histoire et puis on ne sait pas trop ce que c'est. Hop, au chapitre 13, tout d'un coup, pour la première fois, on nous dit officiellement que Jésus se met à parler en parabole. Bon, donc visiblement tout le monde sait ce que c'est, puisqu'on ne nous explique pas le fonctionnement. Et au fond, Jésus se met à parler, à raconter ses histoires, et le sous-entendu, bien évidemment, c'est que si vous voulez comprendre, il va falloir accepter d'abord de se mettre à l'écoute de cette histoire. Ce qui n'est pas si simple, parce que vous voyez, par exemple, au tout début de ce discours, les disciples, ils pensent que ce n'est pas du tout pour eux. Ils disent à Jésus d'ailleurs, pourquoi tu leur parles en parabole à eux? Ce n'est pas vraiment pour nous, nous on est plutôt savants, nous on est plutôt intelligents, nous on a plutôt compris, on n'a pas besoin de ces petites histoires.
Comme s'il y avait deux publics
exactement, et puis
à distinguer.
De manière tout à fait habile, Jésus leur répond bien évidemment en racontant une autre parabole. Et puis, fil en aiguille, on s'aperçoit qu'après, quand les disciples reprennent la parole, ils disent à Jésus « Ah oui, mais dis donc, l'histoire que tu nous as racontée tout à l'heure, elles reviennent un peu en amont et puis tu pourrais nous l'expliquer ?» Donc finalement, on s'aperçoit que, sans le dire, les premières histoires que Jésus a racontées, elles ont fini par les toucher, elles les ont intéressées, ça a suscité en eux du désir, ça a travaillé et puis le temps a passé, d'autres paraboles ont été racontées, puis tout d'un coup, il y a des questions qui émergent, et donc on revient à la parabole. Et puis Jésus livre encore une autre parabole, et puis du coup, ils ont encore de plus en plus envie de comprendre. Vous voyez, il y a comme un lien, comme une attirance qui se crée entre le paraboliste et l'auditeur. C'est ça le pacte parabolique, au fond, c'est est-ce que tu es prêt à me faire confiance, à écouter cette histoire, à abandonner un peu ton désir de tout contrôler, de tout maîtriser et de rentrer dans cette histoire.
De prendre un risque, finalement.
Prends un risque, abandonne un petit peu ton raisonnement et ton intelligence. Non pas que tu es sot, pas du tout. Mais c'est à toi en entier que je veux parler. Donc, laisse-toi aller dans cette histoire. Fais-moi confiance, il y a quelque chose pour toi dans cette histoire.
Ouais. C'est pas seulement un développement intellectuel, une argumentation logique. Ça parle autrement.
Non, exactement. C'est pas, encore une fois, c'est pas un discours d'élite. ça parle et au cœur et à l'intelligence. D'ailleurs, Jésus le dit, quand il parle en parabole, pour ceux qui ne comprennent pas ou on s'inquiète pour eux, et Jésus reprend cette citation d'Ésaïe, il est question d'œil qui s'est fermé, de cœur qui s'est endurci, d'oreilles qui se sont bouchées. Ben voilà, c'est tout le corps, ça passe par le corps, ça parle à tous les sens.
Tout à l'heure, vous évoquiez cette question du scandale dans cette fameuse parabole des ouvriers de la 11e heure. Est-ce que ça pose pas aussi le problème de l'interprétation ? Vous, moi, mon voisin, il ne va pas être constitué de la même façon, il n'aura pas les mêmes oreilles. Du coup, on va toujours, peut-être, on va être dans des interprétations complètement différentes. Alors, quel va être le vrai sens ?
Ah, mais encore faudrait-il qu'il existe, ce vrai sens ? Mais c'est toute la richesse du langage parabolique. C'est que, vous voyez, vous le dites vous-même, il parle vraiment dans la singularité de notre histoire. C'est-à-dire, il ne vous parle pas à vous comme il me parle à moi, comme il parlerait à notre voisin. Et je dirais tant mieux, parce que Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Il ne s'adresse pas à un peuple, à un groupe. Hein. Il s'adresse vraiment à chacun d'entre nous. Donc, il a quelque chose à dire à chacune et chacun d'entre nous. Ça, c'est vraiment déjà une bonne nouvelle, je crois. Et puis, quant à l'interprétation, je crois qu'on n'en a jamais fini avec les paraboles. C'est un puits sans fond. Alors, oui, il y a plusieurs interprétations possibles, mais il y a aussi des interprétations qui sont fausses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire tout dire, tout et n'importe quoi à une parabole. Il y a des choses qu'elles ne disent pas, et puis des fois elles parlent très clairement. Par exemple, dans la parabole des ivrées, à un moment donné, les serviteurs du maître demandent au maître, on revient à ces fameux ivrées qui sont quand même très embêtants, il faut bien, on le reconnaît avec eux, et ils disent, est-ce que tu veux qu'on aille les arracher ? Et là, la parabole n'utilise pas d'image, elle dit très clairement non, ça c'est interdit. C'est-à-dire qu'au fond, ton désir de purification, ton désir de tri, ton désir de dire qui est bon, qui est mauvais, ça ne t'appartient pas. Ça, tu n'as pas le droit. Vous voyez, c'est le seul interdit, par exemple, qui est posé dans les paraboles. Ben là, c'est très clair. Je dis, il n'y a pas besoin d'interprétation. Dire l'inverse, ce serait faire mentir la parabole.
Céline Romer, là, vraiment, je dois vous dire que cet ouvrage est absolument passionnant. Il faut passer par des considérations peut-être techniques que vous apportez dans votre livre, mais quand même, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette ouverture de lecture des paraboles et cette question de pacte parabolique, comme vous l'avez expliqué. Alors, pour quand le deuxième livre ?
Eh bien, écoutez, d'abord, je suis très heureuse de ce retour que vous me faites. Enfin, quand on écrit, on est toujours heureux que d'abord des gens le lisent. Et puis ensuite, quand c'est apprécié, tant mieux. Mon objectif, en tout cas, c'est de faire aimer ces paraboles. Parce que c'est un trésor absolument merveilleux que Jésus nous a laissé de son passage. Donc ça, à garder. Et puis, ça marche à chaque fois. Donc ça, c'est formidable. Et puis, on peut même les reprendre quelques jours après, selon l'humeur, etc. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Donc, beau cadeau. Et il faut retourner aux paraboles. Voilà, ça, c'est le but. Et puis le prochain ouvrage, écoutez, on y travaille sérieusement.
C'est une bonne nouvelle aussi. Merci, un grand merci Céline Romer.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.